Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité. Et par l'engendreur et ce qu'il engendre, très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 8 Azar 1399 du calendrier iranien, 28 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'assassinat de Fakhrizadeh, une autre tentative désespérée pour perturber le développement de l'Iran. Le guide suprême de la révolution islamique appelle à punir les responsables de l'assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh. L'assassinat du scientifique iranien démontre le désarroi et l'échec des ennemis, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Et manifestation contre une loi sécuritaire en France. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a appelé à punir les personnes impliquées dans l'assassinat de l'éminent scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Dans un message, l'honorable Ayatollah Khamenei a exhorté les autorités compétentes à poursuivre l'affaire et à infliger une peine définitive à ceux qui ont ordonné et perpétré le crime. Le guide suprême de la révolution islamique a estimé que le martyr Fakhrizadeh, prestigieux scientifique du nucléaire et de la défense, avait été tué par des mercenaires criminels et impitoyables. L'honorable Ayatollah Khamenei a également appelé les responsables à continuer les activités techniques et scientifiques de Fakhrizadeh dans tous les domaines où il travaillait. Il a en outre exprimé ses condoléances pour le martyr de l'éminent scientifique iranien. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'assassinat de l'éminent scientifique nucléaire du pays, Mohsen Fakhrizadeh, montrait le désarroi des ennemis face au progrès scientifique et technologique de l'Iran. Hassan Rouhani a affirmé que l'acte terroriste indiquait également les échecs des ennemis sur les fronts politiques dans la région ainsi que dans le monde. Il a noté que l'assassinat du scientifique iranien suggère également l'ampleur de l'animosité et de la rancune des ennemis envers la République islamique d'Iran. Le président Rouhani a réaffirmé que de tels actes terroristes n'affaibliraient pas la volonté des Iraniens de suivre la voie du développement scientifique. Il a également promis que l'Iran répondrait à cet acte criminel en temps et en heure convenable. Les ennemis de l'Iran devraient savoir que la bravoure du peuple et des responsables iraniens est telle que cet acte criminel ne restera pas sans conséquence, a-t-il ajouté. L'Iran a souligné qu'il y a de sérieuses indications de l'implication d'Israël dans cet assassinat. L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a fait ce commentaire dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité. Majid Tartaravanchi les a exhortés à condamner fermement l'assassinat et à prendre des mesures nécessaires contre ses auteurs. Il a également mis en garde contre tout aventurisme américain et israélien à l'égard de l'Iran. Tartaravanchi a réaffirmé que la République islamique d'Iran se réserverait le droit de défendre son peuple et de garantir ses intérêts nationaux. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a déclaré que Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique iranien assassiné vendredi, était une figure clé dans la lutte que l'Iran mène contre le coronavirus. Le général Hatami a déclaré que M. Fakhrizadeh était le chef de l'équipe qui a développé l'un des premiers kits iraniens pour le diagnostic du coronavirus. Évoquant que Fakhrizadeh était vice-ministre et chef de l'Organisation iranienne de recherche et d'innovation pour la défense, le ministre iranien a déclaré « Il avait un excellent profil scientifique et une longue expérience de l'innovation en matière de défense. Il a formé de nombreux étudiants et ses travaux dans le domaine de la défense sont énormes et fructueux. Il a été un élément efficace des innovations en matière de défense et d'industrie militaire. Ce que l'ennemi a fait est clair, il vise partout où une mesure efficace est prise pour la nation iranienne », a-t-il ajouté. Environ 3 500 personnes selon la police, entre 6 000 et 7 000 selon l'intersyndicale, manifestent à Nantes, en France, contre la proposition controversée de loi sécurité globale. Des incidents ont éclaté entre policiers et manifestants qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Des dizaines de rassemblements ont été organisés samedi en France pour dénoncer une loi en préparation jugée liberticide par les organisateurs dans un pays secoué depuis jeudi dernier par une nouvelle affaire de violence policière qui met le gouvernement sous pression. Au cœur de la contestation qui a débordé jusqu'à entraîner une crise politique, figurent trois articles de la proposition de loi sécurité globale qui a déjà reçu un feu vert de l'Assemblée nationale la semaine dernière, encadrant la diffusion de l'image de policiers, l'usage de drones et des caméras piétons par des forces de l'ordre. Le gouvernement français avance que cette disposition vise à protéger les policiers victimes d'appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux avec des détails de leur vie privée révélés. Mais ses détracteurs font valoir que bon nombre d'affaires de violence policière seraient restées impunies si elles n'avaient pas été capturées par les caméras de journalistes et les smartphones des citoyens. Deux affaires de violence policière cette semaine, révélées par des images vidéo, ont porté le débat à ébullition et transformé ce qui était une passée politique difficile à négocier pour le gouvernement en véritable crise. La presse française et étrangère ont dénoncé une dérive sécuritaire, des atteintes aux droits. Parmi les voix critiques figurent la défenseure des droits de l'homme, les rapporteurs des droits humains auprès de l'ONU et le débat s'est aussi invité au Parlement européen. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que Washington continuera à utiliser des sanctions contre les entreprises étrangères qui fournissent des matériaux et des technologies liées au programme balistique de l'Iran. Les commentaires de Mike Pompeo sont intervenus après que les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à deux entreprises chinoises et à deux entreprises russes qui, selon Washington, ont soutenu le développement du programme balistique iranien. Mike Pompeo a prétendu que ces entreprises sont accusées d'avoir transféré des technologies et des articles sensibles en République islamique d'Iran. Il a indiqué qu'ils seront soumis à des restrictions sur l'aide de l'administration américaine et sur leur exportation pour une durée de 2 ans. Entre-temps, la Chine a déclaré qu'elle avait menacé d'adopter de sérieuses mesures contre les États-Unis au sujet des sanctions. Pékin a souligné qu'il protégerait fermement ses droits et intérêts légitimes. Et enfin, l'épidémie de coronavirus reste toujours violente en Europe, deuxième région la plus touchée après l'Amérique latine et les Caraïbes. Le cap des 400 000 décès dus au COVID-19 a été dépassé samedi sur le vieux continent et plus de 36 000 morts y ont été recensés ces 7 derniers jours, le bilan hebdomadaire le plus lourd depuis le début de la pandémie. L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartaravanchi, a déclaré qu'il y avait de sérieuses indications de responsabilité israélienne dans l'assassinat du physicien iranien Mohsen Fakhrizadeh. Dans une lettre adressée vendredi soir au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur d'Iran auprès l'organe mondial a déclaré que la République islamique d'Iran se réserverait le droit de se défendre. L'assassinat lâche du martyr Fakhrizadeh, avec de sérieuses indications de responsabilité israélienne, est une autre tentative désespérée de faire des ravages dans notre région et de perturber le développement scientifique et technologique de l'Iran, a déclaré Tartaravanchi dans cette lettre. La lettre est arrivée quelques heures après que Fakhrizadeh, le chef de l'Organisation pour l'innovation défensive et la recherche du ministère de la Défense, ait été assassiné par des terroristes dans son véhicule dans une petite ville à l'est de la capitale Téhéran, lors d'une attaque qui impliquait également un attentat à la voiture piégée. La mise en garde contre toute mesure aventuriste des États-Unis et d'Israël contre mon pays, en particulier pendant la période restante de l'administration actuelle des États-Unis au pouvoir, la République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre son peuple et garantir ses intérêts, poursuit la lettre. Cette lettre a continué en faisant référence à l'assassinat de plusieurs scientifiques iraniens de premier plan lors d'attaques terroristes au cours de la dernière décennie, disant qu'il y avait des preuves solides que certaines parties étrangères étaient derrière ces assassinats. Au cours de cette décennie, plusieurs scientifiques iraniens de haut niveau ont été ciblés et assassinés dans des attaques terroristes, et nos preuves solides indiquent clairement que certains quartiers étrangers sont à l'origine de ces assassinats, a-t-il déclaré. Majid Tahteravanchi a également salué le rôle important de Fakhrizadeh dans la lutte contre la maladie COVID-19 en Iran. L'un des derniers services du martyr Fakhrizadeh a été son rôle exceptionnel dans le développement du premier kit de test COVID-19 en Iran, qui est une grande contribution à nos efforts nationaux pour freiner la pandémie de COVID-19 à un moment où l'Iran est sous un régime inhumain de sanctions des États-Unis, empêchant strictement notre accès aux biens humanitaires, y compris les médicaments et le matériel médical, a-t-il déclaré. En conclusion, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a exhorté Antonio Guterres et le Conseil de sécurité à condamner fortement l'acte terroriste et à prendre des mesures nécessaires contre ses auteurs. Plus tôt vendredi, Tahteravanchi a tweeté que l'assassinat visait à faire des ravages dans la région. Vendredi, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Ebrahim Raisi, a déclaré que le grand crime avait été commis par des éléments traîtres liés aux étrangers et au sionisme international, dans le sinistre objectif d'entraver le progrès scientifique du pays. M. Raisi a en outre salué le rôle du scientifique dans l'accélération des progrès de l'Iran dans divers domaines scientifiques, y compris l'industrie nucléaire, affirmant que l'assassinat de Fakhrizadeh ne bloquera pas la marche en avant du pays. Il a appelé les institutions de sécurité et de renseignement de l'Iran, ainsi que les organes judiciaires compétents, à faire tout leur possible pour arrêter et rendre justice aux criminels et mercenaires impliqués dans ce crime dès que possible.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. À en juger, les dépêches en provenance de la Syrie, plus précisément du nord de la Syrie, la Turquie, seraient en train d'évacuer certaines de ces bases installées, si vous voulez, en territoire syrien, plus précisément au nord de ce pays. Dans le même temps, l'agence de presse officielle de Syrie, Sana, fait part des atrocités commises par les éléments à la solde de la Syrie contre, si vous voulez, des habitants de cette région. Et à cela s'ajoute cette multiplication des agressions israéliennes ces derniers jours contre le territoire syrien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Bruxelles, un géopoliticien et spécialiste belge des questions internationales au téléphone, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue de Velay. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et un grand salut à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup, vous l'avez dit. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste de français, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas, capitale syrienne. Monsieur De Volley, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Luc Michel. Et
Maître De Volley, vous êtes en fait en Syrie, vous suivez de près les évolutions relatives Ah, de ce pays, je viens de lancer le sujet. Comment évaluez-vous ces récents agissements de la Turquie, des forces armées turques en Syrie, s'il vous plaît?
Alors, c'est effectivement depuis l'accord signé au mois de mars dernier entre le président Poutine et le président Erdogan, afin de faire baisser, si je puis dire, les tensions dans la province d'Idlib. On n'a pas souvent entendu parler de ce qui se passe là-bas. Et pourtant, les développements sont assez significatifs parce que l'armée syrienne a petit à petit encerclé, si je puis dire, les positions turques sans que les médias n'en fassent état. Et de ce fait, réduit considérablement le pouvoir de nuisance que la Turquie exerçait dans cette province par le biais de ses milices terroristes, si je puis dire. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans une situation où, à l'opposé du mois de mars dernier, la présence turco-terroriste, je veux dire, est plutôt concentrée sur la ville d'Idlib elle-même et le nord de la province. Ce qui n'empêche pas la Turquie de continuer à essayer d'armer, de jouer un petit peu un rôle de trublion en acheminant du matériel militaire, bien sûr, à ses complices, à ses milices, en jouant un petit peu un jeu de dupe avec la Russie, égard à observer les accords qui avaient été signés de patrouille conjointe, puis après voir que le trajet qui avait été prévu a fait l'objet de sabotage par le biais de ses ouailles. Donc c'est un petit peu hein, une politique de terre brûlée sans en avoir l'air d'une, mais dans l'ensemble, et alors même que effectivement on n'en parle pas beaucoup, la situation lentement mais sûrement est en train de non seulement de se stabiliser, mais de s'améliorer à telle enseigne que même s'il restera bien sûr des points fondamentaux qui portent sur la présence turque en elle-même, la poche purulente d'Idlib n'est plus ce qu'elle était il y a encore 8 mois.
Merci beaucoup, Maître Develay. Luc Michel, vous avez en fait entendu les explications de Maître Develay. En fait, selon Maître Develay, l'armée turque a encerclé les positions des forces turques en territoire syrien, plus précisément au nord de ce pays. Luc Michel, hier, il y avait en fait une information qui avait été donnée par un site d'information russe, comme quoi, en fait, l'armée syrienne avait anéanti ces derniers temps 15 chars de forces armées turques en territoire syrien. La Turquie semble être obligée désormais de quitter la Syrie. Est-ce que ça également, c'est votre impression, Luc Michel?
J'ai l'impression qu'il y a surtout un problème stratégique. C'est que l'armée turque, c'est une armée puissante. C'est la seconde armée de l'OTAN après les États-Unis. Mais c'est une armée dont le matériel est vieux et dépassé. En particulier au niveau des blindés, c'est extrêmement net. On essaye de vendre dans l'opinion publique occidentale à propos des fronts périphériques en Libye ou au Karabakh, on essaye de vendre l'image d'une armée turque qui serait à la pointe de la technique avec les drones, etc. Et c'est loin d'être le cas. C'est une armée qui a du vieux matériel, qui est fragilisé actuellement par ses mauvais rapports avec les États-Unis, mais surtout qui a été fragilisé par la grande purge effectuée par Erdogan lors du coup d'État qui, pour moi, est bidon de Fatah Gülen. Ce qui se passe actuellement, il faut quand même rappeler quelque chose, parce que nous nous adressons à un public francophone. On vend dans l'opinion publique occidentale et en France une fausse image, un scénario virtuel de ce qui se passe en Syrie ou sur d'autres fronts périphériques comme la Libye. Et en particulier, Macron vend l'image d'une alliance turque et russe qui serait tournée contre les Occidentaux. Dans la réalité, les Turcs, c'est l'OTAN. C'est même, ils ont été définis par l'administration Trump comme la meilleure armée de l'OTAN qui remplissait ses obligations, c'était le cas lors du sommet de Bruxelles, Et la Turquie, un peu partout, que ce soit en Syrie, que ce soit au Karabakh, que ce soit en Libye, elle roule, comme on dit, en fait, pour les États-Unis. C'est clair et net au milieu de tout cela que cette image est fausse. Il y avait encore hier un film de fiction, de propagande sur la chaîne Arte, qui est financée par Paris et Berlin, où on présentait la guerre en Syrie comme un huis clos entre les Kurdes, les YPG et les djihadistes. Et au milieu de tout ça, la présence illégale des Turcs, des Français, des Américains n'est pas soulignée, mais la présence de l'armée syrienne est totalement gommée. Je pense que la réalité du terrain, elle rappelle ces gens à la réalité, à ce qui se passe réellement, c'est-à-dire une armée turque qui marque le pas, une armée syrienne qui achève la reconquête du territoire national. C'est cela les caractéristiques de ce qui se passe. La Turquie, je pense, a eu des ambitions géopolitiques un peu trop grandes. Elle est engagée en Méditerranée, elle est engagée en Afrique du Nord, pas seulement en Libye. Elle a essayé de s'engager au Caucase. Je pense que le Caucase a été un pont trop loin pour l'armée turque.
Maître de Velay, Luc Michel estime que voilà, s'agissant des agissements de la Turquie en territoire syrien, il estime que la Turquie, c'est l'OTAN. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à avancer en fait cette idée, d'autant plus qu'on sait très bien quand même qu'il y a des divergences de vues entre au moins certains pays membres de l'OTAN, par exemple la France et la Turquie en ce qui concerne cette intervention militaire au nord de la Syrie.
Bah écoutez, vous l'avez dit, les deux pays, puisque vous citez la France en opposition à la Turquie concernant les divergences en la Syrie, je ne vois pas vraiment de divergence. Les éléments de langage ont quand même toujours été les mêmes jusqu'à assez récemment. Et dans les grandes lignes, sur les aspects dits stratégiques, moi, je ne vois pas du tout de différence. La Turquie, comme l'a souligné Luc Michel, est la deuxième armée de l'OTAN, donc ce faisant, elle est sollicitée, non seulement de par le fait qu'elle peut être déployée pour des opérations, on va dire, qui couvriraient certaines surfaces, certaines zones assez larges. Les Français, les Allemands, les Italiens, sans compter les Britanniques et les Américains, eux utilisent plutôt davantage des opérations des forces spéciales, des renseignements militaires. C'est plus de la logistique dans ce sens-là, mais je pense que les uns avec les autres, eu égard au fait qu'effectivement ils appartiennent à la même alliance militaire, sont complémentaires plus qu'autre chose les uns avec les autres et ne partagent pas en cela des divergences idéologiques ou stratégiques. C'est juste simplement que l'armée arabe syrienne et ses alliés ont militairement renversé la situation. Et effectivement, dans ce contexte-là, Erdogan s'est retrouvé un petit peu comme l'idiot utile, coincé avec des ambitions qui, au départ, semblaient être favorisées par l'évolution initiale de la situation dans le pays, mais qui maintenant, en fait, se retourne contre lui. Et le fait, effectivement, comme le soulignait Luc Michel, que la Turquie se livre de l'aventurisme militaire tantôt en Afrique du Nord, tantôt dans le Caucase Sud, fait qu'aujourd'hui, il est plus ou moins dans une situation où rêve néo-ottomaniste, entre guillemets, a pour résultat qu'il est contesté dans sa façon de gérer son propre pays avec une économie en pleine déliquescence, une monnaie qui s'écroule, une opposition qui, je pense, malgré les purges de 2016, est en train de reprendre, on va dire, du poil de la bête.
Alors, Luc Michel, peut-on dire, en fait, si j'ai bien suivi, en fait, Maître de Velay, il y a un rapport entre ces agissements de la Turquie, de cette, en fait, éventuelle décision de la Turquie de quitter la Syrie avec ce qui se passe sur le plan de la politique intérieure de la Turquie. Est-ce de votre avis également?
C'est-à-dire que le régime d'Erdogan, il est fragilisé. Électoralement, ça s'est mal passé. Erdogan a notamment perdu ce qui était le départ de son ascension politique, c'est-à-dire la mairie d'Istanbul, et il a dû faire appel à un allié qui est un parti de type purement néo-fasciste, c'est le MHP, c'est le fameux parti des loups gris, et ils ont introduit à l'intérieur de l'idéologie du néo-ottomanisme, c'est-à-dire de l'idéologie des frères musulmans en Turquie, ils ont introduit une composante ultranationaliste qui est le pan-turquisme ou le pan-touradisme. Et tout d'abord, cela a conduit à des visées géopolitiques un peu démesurées, mais ça a conduit surtout à exacerber la relation avec la Russie, puisque le racisme russe et dans les années 1920, le bolchevisme étaient des ennemis historiques du pan-turquisme. Ça ne dissimule pas, vous avez raison dans votre question précédente, mais il y a des fractures qui ont été ouvertes par Trump au sein du bloc américano-occidental et de l'OTAN. Il y a une rivalité entre la France, la Grèce et ses alliés égyptiens avec la Turquie. Ce sont des fractures internes qui sont intéressantes parce qu'elles fragilisent la position même à la fois de Paris et de la Turquie. Mais il faut quand même rappeler que les guerres d'agression, parce que c'est ça qu'il s'agit, en Syrie ou en Libye, elles n'ont été possibles qu'avec la Turquie. La Turquie, tout d'abord, elle a fourni à l'OTAN la fameuse base d'Istirlik. C'est par la base d'Istirlik que se déploie l'armée américaine, notamment sur l'Euphrate, mais également en Irak. Et deuxièmement, lorsqu'il a fallu des troupes arabes pour combattre Bachar el-Assad ou Muammar Kadhafi ou aujourd'hui Haftar, c'est la Turquie qui a fourni ce qu'on appelle les tafkiristes en Iran et que nous appelons, nous, en Europe occidentale, les djihadistes. Ce sont les ponts aériens de la Turquie qui ont amené les djihadistes libyens en 2011 en Libye, qui les ont ramenés fin 2011 en Syrie. La soi-disant, on parlait de scénario virtuel, mais la soi-disant armée syrienne libre, on sait aujourd'hui qu'elle n'est encore constituée que de forces djihadistes dites modérées, ce qui est une farce évidemment. Et donc, ce déploiement occidental, il n'est possible qu'avec la Turquie. Maintenant, le problème de la Turquie, c'est que Erdogan est devant une minorisation politique. Il n'a plus le contrôle qui était celui de son pays il y a 20 ans, mais il est devant aussi un échec économique. Il y a en Turquie une crise économique, il y a une crise politique, il y a le limogeage des responsables de l'économie qui sont souvent des proches d'Erdogan d'ailleurs. Et tout ça, évidemment, comme souvent dans le régime autoritaire, ça s'est traduit par une fuite en avant. La fuite en avant, c'est les fronts secondaires de Libye ou du Karabakh, mais qui ne sont que des séquelles de ce qui se passe en Syrie.
Et merci, Maître Develay. En fait, ces agissements de la Turquie interviennent à un moment où, je viens de le dire en fait tout à l'heure, au début de notre émission, il y a eu cette multiplication des agressions israéliennes contre la Syrie, des agressions qui sont en fait intervenues à un moment où il y a eu cette récente visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans la région, y compris en Israël. Comment vous l'expliquez, Maître Develay?
Mais écoutez, je pense que de toute façon, sur un plan stricto sensus militaire, les raids israéliens ne sont pas vraiment des raids, en fait, ce sont des lancements d'engins balistiques au-dessus d'espaces aériens qui sont pour l'instant sous contrôle israélien, mais il n'y a pas de raid d'avions israéliens dans le territoire, dans l'espace aérien syrien à proprement dit, puisque depuis le mois de juin dernier, l'accord, la visite à Damas du ministre de la Défense de la République islamique d'Iran, on a tout de suite pu constater un barricadement total du ciel syrien dans son ensemble, ce qui fait que les Israéliens, en fait, sont dans une situation où ils essaient d'envoyer un message qui est un peu contradictoire, c'est qu'on serait prêt quelque part à négocier si vous, Damas, vous demandiez à votre allié iranien de partir. Parce que pour eux, la ligne rouge, c'est la présence de l'Iran, telle qu'ils la perçoivent, en tout cas en Syrie, parce que pour eux, ils considèrent que l'Iran se trouve maintenant à leur frontière, directement. Mais en même temps, c'est exactement grâce à l'appui de la défense antiaérienne apportée par les Cordates 3 et le Bavard 373 que la Syrie maintenant peut être en position de dire qu'on n'a pas besoin de s'asseoir et de discuter quoi que ce soit. Donc c'est une situation qui s'apparente plus à une espèce de petit roquet qui laisse entendre qu'il a de quoi faire avancer ses prétentions, alors qu'en fait c'est plus un geste de désarroi, si vous voulez mon avis.
Luc Michel, vous également, maître de Velay, vous estimez que l'armée des Syriennes et de ses alliés ont réussi à renverser totalement en fait la situation sur le territoire syrien, très particulièrement sur le plan militaire, en leur faveur. Le régime israélien est-il inquiet de cela? Est-ce que cela qui inquiète en fait le régime israélien qui a multiplié ces derniers temps ses agressions contre la Syrie, Luc Michel?
Mais il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que la Syrie, on est dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui est dans sa 10e année. On peut dire qu'Israël, c'est un des grands gagnants stratégiques de ce soi-disant printemps arabe, qui a été un hiver glaciaire dans tout le Proche-Orient. À partir de 2015, les Russes renversent la situation militaire, ils s'allient étroitement avec la Syrie et avec l'Iran. Il y a une véritable alliance militaire qui est également soutenue par les Chinois, d'ailleurs, et ça change la donne. La caractéristique de l'opération russe en Syrie, c'est qu'elle a rétabli la parité stratégique qui était au cœur de la guerre froide en Syrie, déjà, entre les Israéliens, le régime du père de Bachar el-Assad et l'Union soviétique à l'époque. Il y avait la fameuse parité stratégique. La parité stratégique, elle a été rétablie à partir de 2018-2019 au profit de l'axe de la résistance. C'est fini les grandes opérations. Par exemple, le fait qu'Israël se considérait comme le maître du ciel syrien, c'est terminé. Les rapports ont profondément changé aussi entre la Russie et Israël. Dans la période précédente, en raison de l'existence d'une très grande communauté de juifs russes en Israël qui sont venus de l'émigration, mais pas seulement de l'époque soviétique, mais de l'époque post-soviétique, il y avait une espèce de neutralité bienveillante des Russes en faveur des Israéliens. Ça, c'est terminé. Les Israéliens ont été très loin. Netanyahou a franchi plusieurs fois la ligne rouge et il a essayé de faire du chantage à Poutine, ce qui ne marche pas. Il y a maintenant un solide front militaire qui est un front russo-syro-iranien avec un prolongement stratégique vis-à-vis de la Chine. Et Israël a peur. En ce moment, Israël tente deux grandes opérations. Tout d'abord, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais elle n'obtiendra rien évidemment. Elle essaye d'obtenir le départ de toutes les forces iraniennes de Syrie. Ça n'aura évidemment pas de résultat. Et la deuxième chose, les Israéliens ont une attitude très ambiguë, mais qui en fait est un soutien, c'est l'espoir que Trump, dans un dernier geste d'organiser le chaos, ira bombarder les installations nucléaires iraniennes. C'est, quand vous lisez, je lisais comme tous les jours la presse israélienne hier, c'est cela qui domine la politique étrangère d'Israël. Ça et l'expansion vers les Merci. Pays arabes, ce qu'on a appelé le Big Deal de Trump.
Luc Michel, les géopoliticiens belges des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à maître Arnaud de Velay qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Focus. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré qu'il y avait deux façons de mettre fin aux sanctions, de soit la levée des sanctions, soit neutraliser les sanctions et les surmonter. Nous avons une fois essayé la voie de la levée des sanctions et négocié pendant plusieurs années, mais cela n'a donné aucun résultat. Il est donc impératif de travailler à leur neutralisation. L'accent du discours du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a été mis surtout sur les solutions concrètes dont la portée soit rapidement perceptible. Nos potentiels et nos capacités existantes pour rendre nulles et non avues les sanctions sont multiples, a souligné mardi lors d'une audience accordée aux chefs de trois pouvoirs exécutifs et judiciaires et législatifs et également d'autres responsables du pays, l'honorable Ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, en allusion aux mécanismes mis au point par les autorités en ce sens, et axé sur quatre piliers de chapitre, déficit budgétaire, investissement étatique et des institutions publiques, élan de production, soutien aux plus démunis. C'est un mécanisme dont la mise en application se traduira, on le souhaite, par des effets positifs et immédiats à l'échelle de l'économie nationale et du quotidien des gens, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei en mettant de l'accent sur toutes les perspectives qu'une mise en relief de la production nationale pourra ouvrir au pays. Les experts du secteur privé et public mettent en avant des solutions pour booster la production, une hausse de la production dans le secteur automobile à l'appui des fabricants de pièces nationaux, une hausse de la production du secteur pétrolier à l'appui des sociétés à base de savoir et une hausse de production du secteur agricole. Plus loin dans ses propos, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a rejeté toutes les perspectives d'un appui étranger à la relance de l'économie nationale. Nous devons partir du principe qu'il n'y aurait jamais d'ouverture à l'international. Les partis sur qui de certains à l'intérieur ont tendance à compter sont en conflit ouvert contre nous. Les récentes tensions leur enlèvent toute possibilité de se positionner dans des dossiers internationaux et surtout l'Iran serait compté sur leurs promesses. Quant à l'Europe qui ne cesse de reprendre l'antienne, ne vous ingérez pas dans la région ou encore n'ayez pas de missiles. Eh bien, je leur dis, les États-Unis traversent une période d'incertitude et les Européens vont d'une position tyrannienne à une autre. Cette même Europe qui a à son actif le plus grand nombre de cas d'ingérence dans les affaires de notre région. Et dire qu'elle vient nous dire, ne vous ingérez pas alors, même que la France et la Grande-Bretagne détiennent les missiles atomiques les plus destructeurs qui soient et que l'Allemagne est placée en pole position pour en avoir. Et ce sont ces pays qui nous interdisent d'avoir des missiles, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Et de conclure, on ne peut guère faire confiance aux étrangers et chercher à travers eux la solution au problème. Notre action sont nos meilleurs alliés et surtout notre bilan à l'approche de la fin du mandat du président qui devra largement bénéficier à la nation. La volonté de l'Iran est basée sur la construction de liens fraternels avec les pays riverains du Golfe Persique, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. S'exprimant lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar, mercredi, le président Rouhani a déclaré « J'espère qu'avec les nouveaux développements qui se produisent dans l'arène des relations internationales, les politiques hostiles de certains pays de la région seront ajustées et témoigneront d'un renforcement de l'opportunité de dialogue et de parvenir à un accord dans la région. » Tout en soulignant le développement et l'approfondissement des relations bilatérales entre Téhéran et Doha dans tous les domaines d'intérêt mutuel, en particulier les relations commerciales et économiques, le président Rouhani a ajouté l'accélération de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays sera également en faveur des nations et de la région. Ensuite, il a évoqué les accords conclus entre les hauts responsables des deux pays au cours de la réunion de la Commission économique mixte Iran-Qatar dans la ville historique d'Ispahan et a précisé « On espère que nous assisterons à la mise en œuvre de tous les plans convenus et de relations florissantes entre les deux pays de l'Iran et du Qatar ». Les pays de la région devraient coopérer et collaborer les uns avec les autres grâce à la sagesse, la rationalité et un dialogue honnête, a déclaré le président Rouhani, tout en ajoutant malheureusement, ouvrir des voies appropriées pour le régime sioniste entraînera une propagation de l'insécurité et de l'instabilité dans la région et il est vraiment surprenant pour nous que certains pays voisins considèrent leur sécurité à l'ombre de leurs relations avec le régime des sionistes criminels qui est l'ennemi de tous les pays de la région et de tous les pays islamiques, a précisé le président Rouhani. Avec la coopération de plusieurs pays, l'Iran a pris les premiers pas pour produire un vaccin anti-Covid. Des mesures qui seront annoncées dès qu'il sera finalisé, a déclaré ce jeudi le vice-ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Iraj Haririchi. Il s'exprimait de ce jeudi 26 novembre devant les journalistes à Zanjan et en réponse à une question du correspondant de l'IRNA sur la fabrication du vaccin anti-Covid. Il a déclaré « Nous développons actuellement des vaccins anti-Covid dans notre pays, dont 4 ont été récemment soumis à l'Organisation mondiale de la santé, dont les autorités ont été surprises par les progrès des chercheurs et des scientifiques iraniens », a-t-il souligné. Et au Liban, le bureau de chef du courant patriotique Gibran Bassil a affirmé qu'il n'est pas nécessaire de répondre à nouveau à l'ambassadrice américaine tant qu'elle se répète sans apporter aucune preuve sur les accusations de corruption proférées à l'encontre du chef du CPL. Madame Dorothy Shia n'a délivré aucun dossier ou document à l'État libanais concernant ses prétentions, rapporte le quotidien libanais Al Akhbar, et d'appeler le ministère libanais des Affaires étrangères à rappeler à l'ambassadrice américaine en poste à Beyrouth la nécessité de respecter les principes démocratiques et de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Liban. Pour le chef du plus grand parti chrétien au Liban, qui accuse sans les nommer les États-Unis de procéder à son assassinat politique, c'est incontestablement son alliance avec le Hezbollah qui est en cause. En Tunisie, le parti Al-Jomhouri, le parti républicain, dénonce la rencontre entre le prince héritier saoudien et le premier ministre israélien Issam Chebbi. Secrétaire général d'Al-Jomhouri a appelé sur sa page officielle de Facebook à lutter contre l'axe du mal arabe en réaction à une rencontre qui a eu lieu entre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
La radio de l'armée d'occupation a affirmé la visite en catimini de Benjamin Netanyahu, premier ministre de l'ennemi, à Riyad, capitale saoudienne. C'est là où il s'est entretenu avec le prince héritier, maître de la scie, et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur les voies de contrecarrer l'Iran avant la remise du pouvoir au président élu, a écrit Sam Chebbieh. D'ajouter, l'accès du mal arabe a déjà dépassé les lignes de la normalisation et il a commencé à tramer des complots avec les occupants dans l'objectif de contrecarrer l'Iran. De plus, Israël a accepté de protéger les régimes en cours d'effondrement et c'est ainsi que l'axe du mal arabe a ouvert les portes de la région à ses occupants. Les ennemis de l'Oumma, quel qu'en soit le régime, sont les ennemis de la démocratie et il est indispensable de les combattre ainsi que de combattre leur soutien, quel qu'en soit le nom. Il s'agit d'un devoir incontournable, a-t-il souligné encore sur sa page Facebook. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. On va se retrouver la semaine prochaine, plus précisément dès samedi prochain, pour une autre émission Focus.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.